Merci beaucoup. Elle m'avait dit qu'elle avait très peur de faire l'introduction parce qu'elle n'était pas du tout professionnelle de la chose, mais moi qui fais maintenant pas mal de conférences, je trouve que c'est au contraire très professionnel. Merci infiniment pour votre accueil, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. La SNCF a eu la bienveillance de ne pas faire grève sur la ligne Paris-Grenoble, ce qui est une très bonne chose. Je suis venu ce soir non pas pour apporter des réponses au risque de vous décevoir, mais pour explorer avec vous, même de façon assez brève, cette belle question que vous m'avez soumise, la question de la relation entre la famille, la loi et la liberté. Et de fait, il est vrai que c'est une question d'actualité, même si elle peut sembler un peu théorique. On en parlait à l'instant, peut-être que cette question a pu sembler lointaine par rapport à l'actualité immédiate telle qu'elle se présente dans nos journaux. En réalité, cette réflexion qui est de nature proprement philosophique est, me semble-t-il, vraiment nécessaire pour décrypter ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans notre société. Et donc je voudrais réfléchir avec vous sur cette question en travaillant sur l'articulation de ces trois pôles que sont donc la famille, la loi et la liberté. Commençons peut-être par cette question de la liberté. Au fond, qu'est-ce que c'est que la liberté? Comment concevons-nous la liberté? Ce matin même, je faisais une conférence dans un lycée, j'ai posé la même question à des lycéens en leur promettant de vous rapporter ce soir leurs réponses. Et ils m'ont répondu, la liberté, c'est le fait de pouvoir choisir, c'est le fait d'avoir le choix. La liberté, c'est le fait de ne pas être contraint. Et c'était effectivement une très bonne réponse. C'est la réponse, pourrait-on dire, de l'opinion commune, la réponse de la société contemporaine. La liberté, c'est le fait de ne pas être contraint. C'est vrai d'ailleurs que quand on est contraint, ben, on n'est pas tout à fait libre. Quand on est obligé d'aller dans un endroit parce qu'on vous a commandé d'y aller, on est moins libre que quand on choisit le lieu où l'on va et la façon dont on y va. Et donc il semble que la liberté soit d'abord le fait de ne pas connaître la contrainte, le fait, pour le dire autrement, d'être indéterminé, dirions-nous en philosophie, c'est-à-dire de ne pas être obligé de nous diriger vers un certain point, obligé par des contraintes extérieures qui nous détermineraient à l'avance. Et la société contemporaine et toute la modernité, puisque nous vivons dans cette période, peut-être même d'ailleurs dans cette conclusion de ce que la philosophie appelle la modernité consiste à définir la liberté comme déconstruction de la contrainte. Le propre de l'accomplissement de la liberté, c'est qu'elle est déconstruction des contraintes, destruction des contraintes. Pour l'homme moderne, pour les hommes modernes que nous sommes, être libre, c'est faire en sorte que sa vie corresponde à un projet personnel. Que notre vie corresponde à notre choix, que notre vie soit exactement structurée à la mesure de notre décision. Et la liberté correspondrait donc à cette faculté de modeler sa propre vie en fonction de son choix personnel. C'est la liberté du « c'est mon choix ». Vous voyez, « c'est mon choix, j'ai décidé, donc c'est ainsi, c'est cela, être libre ». Et de fait, nous voudrions, nous les hommes de la modernité, nous voudrions précisément pouvoir avoir le choix en toute chose, pouvoir faire en sorte que, à notre projet correspond la totalité des dimensions de notre existence. Et il faut, de ce point de vue-là, que soient enlevés de notre route tous les obstacles qui se présentent à l'expression de notre désir. Et parmi ces obstacles, on peut en citer deux. Deux obstacles s'imposent à nous. Le premier obstacle, eh bien, c'est évidemment celui de la loi, puisque la loi constitue une norme qui s'impose à notre liberté. Et donc, moins il y a de lois, moins il y a de normes, mieux nous nous porterons. C'est la raison pour laquelle nous exprimons la volonté d'une dérégulation, d'une certaine façon, pour faire en sorte que la loi corresponde exactement, comme vous le disiez, à notre désir, que la loi se modèle et s'ouvre à toutes les potentialités de notre désir. Et c'est d'ailleurs exactement ce que nous avons vécu l'année dernière. L'année dernière, à travers la question du mariage pour tous, nous nous sommes trouvés exactement devant une situation de dérégulation. C'est exactement ce qui s'est produit. Ça m'amuse beaucoup, d'ailleurs ça m'étonne beaucoup et ça m'inquiète en même temps, de voir que c'est la sensibilité politique de gauche dans notre pays qui a porté cette dérégulation, qui est au fond une forme de dérégulation ultra-libérale, qui consiste à dire un désir s'exprime, il faut alléger la loi de tout ce qui s'oppose dans le cadre juridique à l'expression, à la réalisation de ce désir. De fait, il y a le désir de couples homosexuels qui veulent se marier, il y a le désir de couples homosexuels qui veulent avoir des enfants, ce désir est légitime, donc il doit être satisfait. Et vous voyez, c'est très intéressant de voir la corrélation entre l'expression du désir et l'impératif de sa satisfaction. Que ce désir existe, eh bien, il est absolument impossible de le nier. Que ce désir soit légitime, il est impossible de le nier aussi. Que des couples homosexuels veuillent se marier et consacrer leur union dans une forme qui soit reconnue par la société, bien, on peut parfaitement le comprendre, c'est parfaitement légitime. Que des couples homosexuels désirent avoir des enfants, mais là encore, c'est parfaitement légitime, c'est l'un des désirs les plus naturels, les plus profondément ancrés dans le cœur de l'homme. Donc tous ces désirs sont légitimes. Mais de là à conclure de la légitimité de ces désirs à la nécessité de leur satisfaction, il y avait un pas qui est caractéristique de la modernité. Puisque le désir s'exprime, il doit être satisfait et il ne saurait en être autrement. Et de fait, nous n'avons surtout pas voulu prendre en considération les arguments qui pouvaient s'opposer à la satisfaction de ce désir, et tous ceux qui ont voulu présenter des arguments ont été immédiatement considérés comme, précisément, voulant s'attaquer à la légitimité du désir de l'autre, voulant s'attaquer à la liberté de ceux qui exprimaient leur volonté à travers la revendication du mariage pour tous. Donc au fond, ce qui est très intéressant, c'est que la liberté consiste dans une déconstruction de la contrainte. Et l'année dernière, c'est ce que nous avons vu de façon très concrète, c'est une dérégulation d'ordre libéral, ou on pourrait dire même d'ordre ultra-libéral, parce que le libéralisme authentique, justement, comporte en lui-même l'exigence d'une responsabilité, et donc justement le fait de devoir répondre de la décision que l'on prend, au nom de la réalité telle qu'elle se présente, alors que l'année dernière, de responsabilité, il n'était plus question. Hein, il y a un désir, ce désir doit être satisfait, et pour qu'il soit satisfait, il faut alléger la loi de tout ce qu'elle comporte encore d'obstacles à l'expression de ce désir. Et l'année dernière, concrètement, nous avons eu droit à une dérégulation. Prenez l'article 1 de la loi sur le mariage pour tous, il dit exactement la chose suivante. Le mariage est ouvert à deux personnes de sexe différent ou de même sexe. En bonne et simple logique, on aurait pu supprimer tout simplement la dernière expression. Le mariage est ouvert à deux personnes de sexe différent ou de même sexe, ça veut dire tout simplement le mariage est ouvert à deux personnes. Si vous rentrez chez vous ce soir et que vous dites à vos enfants « Désormais, nous allons établir une règle très stricte à la maison. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. » Vous ne produisez pas une règle. Toutes les portes sont par définition ouvertes ou fermées. Nous sommes devant deux options binaires. Donc, en fait, c'est de la pure rhétorique politique. Le mariage est ouvert à deux personnes de sexe différent ou de même sexe. C'est simplement pour pouvoir dire qu'on a mis que le mariage était aussi ouvert à deux personnes de même sexe. Mais on aurait pu s'arrêter à supprimer la mention même du sexe. On aurait pu dire « le mariage est ouvert à deux personnes ». Là où le mariage auparavant était ouvert à deux personnes de sexe différent, on a amputé la loi de cette dernière condition, et donc on a allégé la loi, on a produit une dérégulation. Voilà. Et de fait, on pourrait d'ailleurs continuer dans le champ de cette dérégulation, et il n'était pas du tout absurde, évidemment, d'envisager qu'elle se poursuive, et qu'on puisse retirer le concept de personne, ou retirer l'idée de la dualité. Alors, au fond, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas envisager d'autres potentialités, puisqu'un désir est exprimé, eh bien, il doit être satisfait. Donc, la première forme de contrainte qu'il s'agit de soulever pour faciliter l'expression de la liberté, c'est la contrainte de la loi. Et la deuxième contrainte, peut-être la plus insupportable, parce qu'elle ne dépend pas de nous, une contrainte qui nous révolte, nous les hommes de la modernité, c'est ce qu'on pourrait appeler la nature. On pourrait l'appeler la nature parce que de fait, on ne l'appelle plus jamais et on se garde bien d'en parler. La nature s'impose à nous comme une restriction effrayante de notre liberté. Et en premier lieu, le fait que nous soyons nous-mêmes des êtres naturels. Ça veut dire précisément que nous ne sommes pas le résultat de notre propre projet. Nous sommes venus au monde sans qu'on nous ait demandé notre avis, et nous sommes venus au monde dans un certain contexte que nous n'avons pas décidé. Parmi les éléments de ce contexte, il y a évidemment la famille, nous n'avons pas choisi notre famille, d'où le fait que la liberté, comme déconstruction de la contrainte, s'affirme comme négation de la famille. Ce qui est décisif, c'est que vous puissiez vous affranchir de votre famille, que vous puissiez vous affranchir d'un modèle familial, que vous puissiez affirmer un choix personnel qui soit indépendant de la reproduction sociale dans laquelle vous enferment les schémas familiaux. Et donc la famille devient un obstacle à notre liberté. On pourrait citer d'autres éléments naturels. La famille est un élément naturel, nous n'avons pas choisi précisément de naître dans ce cadre familial. On pourrait citer d'autres éléments naturels, parmi lesquels ce n'est pas notre sujet ce soir, mais qui fait malgré tout brièvement allusion, parmi lesquels la différence sexuelle. La différence sexuelle est précisément la grande frontière que la nature impose à nos désirs et la frontière qui nous révolte tout particulièrement. Qu'est-ce que c'est que la théorie du genre? Que dit le concept même de genre? Il dit justement que la nature, au fond, n'existe pas, que la différence entre les sexes est culturelle et que donc, Dieu merci, ou plutôt pas Dieu merci, hein, mais que nous pouvons déconstruire cette différence précisément parce qu'elle n'est pas le produit d'une création divine ou le produit d'une volonté ou d'une finalité de la nature, mais qu'elle est simplement une pure construction artificielle de la société. Et donc, au fond, les études de genre visent à déconstruire cette dernière frontière qui s'impose à nous, parce que la différence des sexes est une frontière épouvantable. La différence des sexes m'empêche de considérer que je suis véritablement libre, en tout cas que je suis véritablement tout-puissant, c'est-à-dire que je ne suis soumis à aucune contrainte. Étant un homme, n'ayant pas choisi d'être un homme, quel scandale! On ne m'a pas demandé mon avis. Je suis né comme ça, et je n'y peux rien. Voyez, regardez le regard très étonnant que la société contemporaine porte sur le phénomène, par exemple, du transsexualisme, hein, qui est un phénomène réel et qu'il faut regarder avec un grand respect, hein, c'est-à-dire le phénomène de ces personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur propre corps, et en particulier dans leur corps sexuel. Je sais qu'il y a des psychologues dans la salle, je parle sous leur contrôle, mais il arrive, évidemment, il arrive, et la psychologie le reconnaît depuis toujours, hein, que survienne un trouble dans l'identification qu'une personne peut avoir vis-à-vis de son propre corps dans sa dimension sexuelle. Ça arrive. Et aujourd'hui, donc, un certain nombre de personnes peuvent bénéficier à ce type d'un accompagnement de la psychologie, aussi d'un accompagnement de la médecine, et éventuellement subir, c'est le cas notamment dans des situations de naissance où le corps n'a pas été totalement achevé dans sa sexuation, bien que précisément des personnes puissent subir une intervention chirurgicale qui leur permette de se retrouver dans un corps auquel ils s'identifient ou dans lequel ils se sentent véritablement en adéquation. Ça arrive. Mais ce sont toujours des situations douloureuses. Au point de départ, il y a une tension, il y a une difficulté à se reconnaître dans son propre corps. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous devons le plus grand respect, et c'est la raison pour laquelle la société s'honore d'accompagner sur le plan psychologique et médical des personnes qui sont dans cette situation-là. Mais les médias aujourd'hui, très souvent, le discours commun nous présente cette situation comme si elle était la réalisation d'un fantasme de liberté absolue. Comme si, au fond, vous voyez, le transsexualisme disait la possibilité de changer de sexe à volonté. Et dans le monde politique, aujourd'hui, il y a des gens très sérieux, que l'on pourrait croire très sérieux, et qui revendiquent la possibilité de faire entrer dans la loi, par exemple, le fait de pouvoir changer de sexe à volonté, à gré, hein, sans avoir besoin de ces entretiens préalables, le fait de pouvoir aussi faire transcrire ce changement dans l'état civil, et même d'ailleurs le fait de pouvoir transformer son identité sexuelle dans l'état civil sans avoir besoin d'opérations chirurgicales, c'est-à-dire le fait qu'au fond, l'état civil devrait devenir déclaratif et non plus descriptif, comme il est aujourd'hui. Hein, sur ma carte d'identité, il y a marqué que je suis un homme. Et donc, il faudrait que je puisse aller demain à l'accueil de ma mairie et dire, voilà, j'ai décidé de devenir une femme, changer donc mon prénom, et changer le sexe tel qu'il est marqué sur ma carte d'identité sans que j'ai subi aucune intervention chirurgicale. Hein, ça nous dit justement la volonté, encore une fois, de l'homme moderne, de la postmodernité, de vaincre cette dernière contrainte qui s'impose à nous et qui est la contrainte naturelle. Contrainte scandaleuse. Vous voyez, encore une fois, je n'ai pas choisi ce que je suis et c'est véritablement insupportable. Et d'ailleurs, je suis tout à fait lassé de ne pas avoir le choix et j'aimerais bien, moi qui depuis 27 ans vis dans ce corps masculin, j'aimerais bien vivre une autre expérience. Hein, après tout, c'est quand même un peu ennuyeux d'être toujours enfermé dans la même perspective, donc il faudrait que je puisse devenir une femme. Et d'ailleurs, c'est très irritant de n'avoir le choix qu'entre deux options. Non, mais c'est vrai. Attendez, c'est quand même scandaleux, quoi. Je suis un bon consommateur, je veux avoir le choix, un vrai choix. D'où la revendication, dont vous avez certainement entendu parler, du genre neutre, du troisième genre, hein, la reconnaissance de la situation de la personne intersexe ou indifférenciée, hein, qui ne se reconnaît ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin. Tout ça peut prêter à sourire. Et de fait, je vois que vous en souriez, mais en même temps, c'est très sérieux parce que ça exprime tout simplement cette revendication qui habite la culture contemporaine, hein, précisément d'une liberté qui s'exprime comme révolte contre les contraintes, hein, comme une façon de soulever toutes les contraintes. Et lorsque nous serons devenus vraiment indéterminés, lorsque vraiment il n'y aura plus aucune contrainte pour s'imposer à nous, alors nous serons vraiment libres. Quand nous ne serons plus déterminés par les lois, quand nous ne serons plus déterminés par les schémas familiaux, quand nous ne serons plus déterminés par le milieu social dont nous venons, quand nous ne serons plus déterminés par cette réalité naturelle qui s'impose à nous, et notamment par la réalité de notre propre corps, alors nous pourrons enfin dire que nous avons conquis notre liberté. Vous voyez, la liberté se conquiert comme révolte contre les obstacles, et c'est essentiellement de cette façon-là que la société contemporaine la conçoit. Être libre, c'est, comme le disait les lycéens de ce matin, ce que je montrais, être libre, c'est avoir le choix, avoir le choix. Je veux pouvoir avoir le choix de tout. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le choix d'à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir votre métier comme vous voulez, vos convictions politiques, vos opinions religieuses, vos engagements personnels, votre vie associative. Vous pouvez choisir, pour les plus jeunes dans cette salle, de devenir serveur de bar à Tombouctou ou trader à Pékin. Bref, vous avez le choix de modeler votre propre vie en fonction de vos désirs, mais il reste encore quelques contraintes, et ces contraintes, il faut les vaincre. Et c'est dans la victoire contre ces contraintes que vous pourrez affirmer une authentique liberté. Voilà, me semble-t-il, la façon dont la société contemporaine perçoit la liberté. Et vous l'aurez compris, dans cette perspective, les deux grands ennemis de la liberté sont, d'une part, la loi, et d'autre part, la famille. La famille est un lieu de reproduction, un lieu de reproduction sociale, un lieu de mimétisme. La famille nous enferme dans des répétitions, dans des héritages, tout ce que nous ne voulons pas recevoir, parce que ce qui compte pour nous, ça n'est pas de recevoir, mais c'est de construire. Ce qui compte pour nous, ça n'est pas de reconnaître ce que nous avons à recevoir d'une histoire qui nous précède, mais ce qui est décisif, c'est de pouvoir initier l'acte nouveau d'une liberté qui se défie de toutes les contraintes. Et dans cette perspective, évidemment, la famille est un obstacle. Et bien souvent, d'ailleurs, nous concevons nous-mêmes la famille comme un obstacle, ou en tous les cas, nous concevons la famille comme un lieu de restriction de la liberté. L'année dernière, j'ai eu l'occasion d'intervenir assez souvent sur les questions qui touchaient au mariage pour tous, ou qui touchaient aux questions environnantes. Et je me rappelle d'un soir, une question très poignante d'une personne qui était à l'une de ces conférences, qui était un grand-père, et qui intervient à la fin du propos, et qui dit, vous voyez, moi, tout ce que vous dites, c'est comme ça que j'ai vécu. Moi, la famille telle que vous en parlez, ou la famille telle qu'elle est défendue par la manif pour tous, moi je la reconnais, c'est comme ça que j'ai vécu, mais moi ma vie elle est passée, d'où est-ce que je vais imposer à mes petits-enfants un modèle familial qui n'est que le mien? Au nom de quoi vais-je leur imposer ces convictions personnelles? Comment serais-je fondé à restreindre leur propre liberté? Eux peuvent vivre ce qu'ils veulent, ce que je dois faire, moi, c'est de leur laisser une vie qui soit débarrassée de toute contrainte, de tout préjugé, pour qu'ils puissent construire leur propre liberté. Et au fond, il y avait une très grande générosité dans la parole de ce monsieur. Elle exprimait tout simplement cette certitude qu'il portait en lui comme une inquiétude que la famille, dans l'acte de la transmission, c'est d'abord le lieu d'une restriction de la liberté. Transmettre à ses enfants des règles, des repères, transmettre à ses enfants ses convictions personnelles, c'est brider leur liberté, c'est les empêcher d'être vraiment libres. C'est déjà les déterminer d'une certaine façon. C'est déjà les enfermer dans une certaine différence. Et donc, c'est les empêcher de connaître cette expérience d'une liberté pure qui est liberté de l'action indifférenciée, de l'action indifférente, indéterminée. Nous avons, je crois, collectivement, cette conception portée sur la famille, cette conception portée sur la loi qui nous dit au fond que ce sont des restrictions de la liberté parfois. Nous nous en accommodons quand nous nous considérons comme des défenseurs de la famille, par exemple, de la loi commune. Disons, bon, c'est quand même bien qu'il y ait des lois pour restreindre la liberté, parce que quand même, si tout le monde était vraiment libre, il se passerait n'importe quoi, ce serait l'anarchie. Ou alors nous disons, bon, bah, la famille, c'est bien, il faut quand même que mes enfants aillent pas n'importe où, qu'ils fassent pas n'importe quoi, donc on va leur fixer on va les mettre dans un couloir, hein, on va leur donner quelques repères pour que précisément ils soient encadrés et disciplinés d'une certaine façon. Nous avons conscience, nous avons le sentiment de restreindre leur liberté en agissant de cette façon-là, et nous nous sentons légitimes pour le faire. Mais malgré tout, nous voyons encore dans ce cadre-là la famille ou la loi comme des restrictions de la liberté. Restrictions peut-être nécessaires, mais restrictions malgré tout. Étant posé ce contexte général, bien, je voudrais maintenant essayer d'ouvrir quelques perspectives pour montrer comment, en fait, en réalité, cette vision de la liberté me semble profondément infondée, et comment nous pouvons tenter de réouvrir une nouvelle voie pour une définition plus authentique de la nature même de la liberté. Et je voudrais le faire dans le rapport à ces deux grandes notions, en travaillant d'abord sur la question de la loi et ensuite sur la question de la famille. Parlons d'abord brièvement de la loi. On nous dit donc que la loi sert à satisfaire ou doit permettre de satisfaire les désirs des individus. Pour le dire encore autrement, on nous dit, c'est une autre formulation de la même idée, que la loi doit s'adapter aux évolutions de la société. Que de fois n'avons-nous pas entendu cette affirmation l'année dernière. On nous dit que la loi doit encadrer les pratiques. Alors, il y a des choses qui se font, de toute façon elles se font, et donc il faut que la loi les encadre pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Enfin, vous l'avez entendu très souvent et vous l'entendrez à nouveau. Il faut que la loi évolue pour se faire aux évolutions de la société. C'est évidemment un argument alors, totalement absurde, mais alors vraiment qui n'a mais absolument aucun sens. Aucun sens. Il faut que la loi encadre les pratiques. Il y a des choses qui se font et il faut quand même reconnaître les pratiques et les encadrer pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors à ce compte-là, évidemment, ça fait très longtemps, par exemple, qu'il aurait fallu légaliser le cambriolage. De toute façon, il y a des cambrioleurs, il y a des gens qui veulent cambrioler. C'est manifeste, d'ailleurs, ils le font, ils n'ont même pas besoin de l'autorisation de la loi pour le faire. Alors tant qu'à faire, il faudrait légaliser le cambriolage pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. C'est vrai. Rendez-vous compte, les cambrioleurs aujourd'hui, ils travaillent au noir. Ils ne sont pas déclarés. Et si le patron du camp licencie ses compagnons, et ils se trouvent sur la paille, il n'y a rien pour les protéger. Donc il faudrait quand même encadrer le cambriolage pour que ça se passe dans de bonnes conditions. On peut créer des syndicats de cambrioleurs qui protègent les cambrioleurs pour pas que ce soit moins reconnu. Voilà, comment on peut s'encadrer. Mais de fait, il faut quand même ouvrir les yeux sur les évolutions de la société. Ça se fait, le cambriolage, ça se fait de plus en plus. Alors vous serez quand même tout à fait rétrograde de ne pas admettre que la loi puisse encadrer cette pratique qui, de toute évidence, semble avoir été choisie par un certain nombre de nos concitoyens et que nous n'avons pas le droit de discriminer de façon gratuite. Ça, c'est quand même étonnant. Bref, vous l'aurez compris, l'argument n'a aucun sens. La loi ne sert pas à encadrer les pratiques. Et sinon, d'ailleurs, il n'y aurait même pas besoin de loi. Mais la seule loi possible, ce serait celle que Rabelais donne à l'abbaye de Thélème, merveilleuse abbaye de Thélème, dont la règle monastique comporte une seule règle, fais ce que tu voudras. Fais ce que tu voudras, c'est-à-dire un impératif qui est à peu près aussi inutile que celui qui consiste à ordonner que toutes les portes soient ouvertes ou fermées, fais ce que tu voudras, mais justement, on n'a pas besoin de loi pour faire ce qu'on veut, et le propre de la loi, c'est qu'elle vient fixer des repères qui ne correspondent pas forcément à ce que nous voudrions. Encore une fois, sinon, il n'y aurait pas besoin de loi. La loi ne serait même pas nécessaire. Si le but de la loi, c'est d'accompagner les évolutions de la société, et dans ce cas, il faudrait que le Parlement s'autodissolve instantanément. Laissons la société évoluer et elle se gérera très bien toute seule. On n'a pas besoin de produire des lois pour mimer de façon répétitive et mimétique les évolutions de la société. Encore une fois, ça n'a littéralement aucune espèce de signification pour n'importe quelle philosophie du droit qui se respecte. Cette idée est totalement dénuée de fondement. Je ne dis pas par là que le législateur ne doit pas considérer la réalité telle qu'elle est, qu'il ne doit pas porter un regard aiguisé sur la façon dont vit la société pour adapter, pour orienter son action en fonction de la vie de la société. Mais le but de la loi n'est pas d'être déterminé par les évolutions de la société. La loi doit accompagner la société, mais en aucun cas elle ne doit s'adapter aux évolutions de la société. En aucun cas, elle ne peut se résumer à une forme de laisser-faire absolue que même d'ailleurs les plus libéraux des libéraux n'auraient même pas voulu imaginer. La loi donc n'a pas pour but d'accompagner les évolutions de la société, elle n'a pas pour but de reconnaître les pratiques. Et d'ailleurs, nous le savons très bien, nous le savons parfaitement. Et nous sommes tout à fait d'accord pour dire collectivement que la loi n'a pas besoin et ne doit surtout pas accompagner toutes les évolutions de la société. Cet argument ne sert d'ailleurs que dans certains cas. Et vous savez, on reconnaît toujours une pensée fausse, sauf qu'elle est contradictoire. Donc c'est très intéressant, mais on voit bien là le symptôme de la vacuité d'une telle position. Les mêmes parlementaires qui vous affirment que la loi doit s'adapter aux évolutions de la société organisent ensuite, et ils ont bien raison, des meetings contre le racisme et des réunions publiques pour défendre la République assiégée. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience qu'il y a des évolutions de la société qui sont plutôt inquiétantes et qu'il faut lutter contre elles. Et on regarderait avec un drôle de regard le parlementaire qui vous dirait aujourd'hui, écoutez, moi, vous savez, dans ma circonscription, je sens qu'il y a de plus en plus de gens racistes, donc on va quand même se remettre au droit racial parce qu'il faut bien que la loi accompagne les évolutions de la société. Il y a une demande accompagnant l'évolution de la société. On le regarderait bizarrement et on aurait bien raison. Quelle est la responsabilité du parlementaire qui se respecte? C'est de dire, le racisme est dangereux, il détruit la société de l'intérieur et donc nous allons lutter avec énergie contre le racisme, quand bien même d'ailleurs nous le sentirions monter dans la société et même à mesure que nous le sentirons monter dans la société. Alors ça ne consiste pas essentiellement normalement à faire des meetings contre le racisme, parce que c'est une efficacité opératoire relativement modeste, mais ça devrait consister normalement à essayer de trouver du travail pour tout le monde, ce qui serait certainement la meilleure façon de nous sortir de ces tentations contemporaines. Mais malgré tout, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, nous avons tous collectivement conscience que la loi ne doit pas s'adapter à toutes les évolutions de la société parce que certaines évolutions ne sont tout simplement pas bonnes. Et là, nous touchons à l'essentiel de ce qu'est une loi. À quoi sert une loi si elle ne sert pas à accompagner les évolutions de la société? Eh bien, elle sert le bien. C'est tout simple. Elle doit servir un bien. Alors, quel bien? Ici, il faut évidemment que je m'excuse d'être trop schématique parce que je n'ai pas le temps de développer ce propos de la façon qu'il mériterait. La philosophie du droit est une des plus belles branches de la philosophie et elle a une complexité toute particulière. Mais si je devais être extrêmement synthétique, presque jusqu'à la caricature, et j'espère que vous voudrez bien m'en pardonner, je dirais de façon très simple que le but de la loi est de servir deux biens qui sont ou convergents ou hiérarchisés. Le but de la loi, c'est d'abord de servir le bien commun, ce qu'on pourrait appeler le bien commun, c'est-à-dire un bien qui dépasse la somme de nos intérêts individuels, en tous les cas un bien qui nous fait sortir du calcul de l'intérêt individuel et de l'intérêt personnel, un bien qui donc nous fait sortir de la pure et simple expression du désir personnel. Et c'est évidemment une nécessité. L'homme, nous dit Aristote, est par nature un animal politique. Ça veut dire que par nature, les hommes vivent en cité, ils s'assemblent dans des cités et ils constituent des communautés que l'on peut appeler des communautés politiques. Une ville, un département, une région, un État sont autant de cités, c'est-à-dire de communautés de biens. Communautés de biens, précisément, il y a dans ce bien que nous constituons tous ensemble quelque chose qui excède la somme de nos propres individualités. La loi doit donc servir le bien commun. Et il me semble que c'est probablement ce sens de la loi que nous avons le plus perdu, que nous avons perdu de vue de la façon la plus affligeante et la plus attristante. Alors, ça tombe bien, ce n'était pas du tout prévu, mais aujourd'hui, j'ai publié dans le Figaro une tribune sur la question de ces jeunes qui veulent partir à l'étranger, puisque le Figaro publie une étude aujourd'hui sur le fait que plus de 50% des jeunes dans notre génération considèrent qu'ils vivraient mieux à l'étranger qu'en France. Et donc le Figaro recoupe ces chiffres avec le fait qu'il y a une explosion des demandes de visa dans un certain nombre de pays occidentaux en provenance de la France. Et on m'a demandé d'écrire une tribune sur la question de savoir pourquoi les jeunes devraient rester en France. Ce qui n'est pas une mince affaire. Trouver des raisons aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Mais en fait, en réalité, il n'y a aucune raison et c'est pour ça qu'il faut rester. C'est-à-dire que précisément, qu'est-ce qui a détruit le monde dans lequel nous vivons? Qu'est-ce qui est la cause de la crise que nous connaissons? C'est que nous avons tous construit nos vies à la mesure de notre intérêt personnel. C'est ça qui explique la totalité de la crise dans, dans les différentes facettes qu'elle nous montre. Et au fond, la crise est le résultat de cet individualisme qui a fini par dissoudre l'idée même de bien commun. Précisément, je crois que cet individualisme a été favorisé peut-être par les périodes de prospérité que nos pays ont connues, par les Trente Glorieuses, par des périodes où, au fond, ce qui comptait, c'était de tirer un maximum de dividendes de la croissance et de faire en sorte que chacun s'en sorte le mieux possible. En tous les cas, de faire en sorte que chacun, pour soi, s'en sorte le mieux possible. Et de fait, c'est la raison aussi pour laquelle nous avons plié la loi à l'expression du désir individuel. Au fond, ce qui est très frappant, c'est que nous avons fini par reconnaître qu'il n'y avait pas au fond, de bien commun. Mais s'il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas non plus de cité, il n'y a pas de communauté. Il y a juste un assemblage de personnes solitaires qui, chacune, cherchent leur propre intérêt et qui calculent leur propre succès. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pendant au moins un demi-siècle, et c'est ce qui nous conduit à la crise d'aujourd'hui, sous toutes ses formes, encore une fois. Qu'est-ce que c'est que la crise de la dette? C'est le fait que nous avons dit, il y a un désir qui s'exprime, que ce désir soit satisfait, et pour le reste, on verra bien demain. La crise de la dette, c'est simplement l'expression d'un individualisme formidable qui confine à un égoïsme assumé. Je veux aujourd'hui mes prestations sociales, je veux aujourd'hui la sécurité, je veux aujourd'hui la totalité des biens que je suis capable d'exiger, et je veux aussi aujourd'hui ne pas payer non plus les impôts qui seraient corrélatifs à cette qualité de service, je ne veux pas les réformes qui seraient nécessaires pour l'assurer d'une façon durable, et donc Je laisse l'ardoise à mes successeurs. Au fond, la crise de la dette, c'est d'abord l'expression de cet individualisme qui a plié la loi à l'expression du désir individuel. Qu'est-ce que c'est que la crise écologique ? La même chose. La crise du marché du travail. La même chose. La crise de la finance, évidemment. La même chose. Donc au fond, on voit que la crise que nous connaissons n'est rien que le résultat de cet abandon même de l'idée de bien commun. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut rester en France. Je le dis à ceux qui sont les plus jeunes dans la salle, je crois qu'au fond, si nous partions à l'étranger pour aller chercher à gagner plus en dehors de France, nous ne ferions qu'étendre au-delà de nos frontières la crise telle que nous l'avons produite aujourd'hui, et nous ne ferions que prolonger, accroître encore la globalité de cette crise dans la gravité de ses conséquences et dans les injustices qu'elle provoque. La loi donc doit servir le bien, et nous sommes reliés précisément à une communauté de biens dont nous ne pourrions nous affranchir sans précisément perdre le sens même de la cité, perdre le sens même de la vie politique, c'est-à-dire de la vie dans la cité, de la vie du citoyen, perdre le sens même de ce bien commun qui nous relie. Et c'est donc la première expression de la loi, et c'est celle que nous avons le plus perdu de vue. C'est celle qui, au fond, était sans doute le plus frappant dans les débats de l'année dernière sur la question du mariage. Au fond, ce qui m'a le plus frappé, personnellement, c'était pas d'ailleurs qu'il y ait une revendication sur le mariage pour tous, ça peut très bien se comprendre. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans les débats qui ont eu lieu, quand il y a eu des débats, au fond, on n'a jamais tellement pris en considération le fait qu'il pouvait y avoir, derrière ces questions, un bien commun. J'en veux pour preuve un dialogue très étonnant et très intéressant, mais parfois dans la vie de la société, il y a des petits symptômes comme ça qui passent presque inaperçus, mais qui en disent énormément. Ce petit dialogue qui a eu lieu entre le sénateur Jean-Pierre Michel, qui était rapporteur du projet de loi au Sénat, et Thibault Collin, qui est philosophe, professeur de philosophie en classe préparatoire. Et Thibault Collin a été auditionné au Sénat, parce qu'il a beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur les questions de mariage, de mariage pour tous et de genre. Et à la fin de l'audition, Jean-Pierre Michel, brave sénateur moustachu, lui dit, bon, écoutez, tout ça c'est très sympathique, hein, mais vous nous avez bien bassiné à l'oppositeur de justice et tout ça, là, mais, hein, ok. Mais pour moi, la justice c'est très simple. La justice c'est ce que la loi décide. Et ce que la loi décide, c'est ce que la majorité a décidé. Un point, c'est tout. Pour le dire autrement, et il ajoute d'ailleurs, c'est la conception marxiste de la loi. Alors, c'est pas du tout la conception marxiste de la loi, mais c'est surtout, c'est pas du tout une conception démocratique, ni même politique de la loi. À quoi sert la politique ? Elle sert à interrompre la guerre de tous contre tous. Elle sert à interrompre le cycle de la loi du plus fort. Quand la loi du plus fort règne, c'est qu'il n'y a aucune loi. Et quand la loi du plus fort règne, c'est qu'il n'y a pas de politique. Ça s'appelle la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, c'est ce qui se passe avant qu'on ne commence à faire des lois. Le plus fort gagne contre le plus faible. Et chacun tente de faire prévaloir son intérêt. Ce que dit Jean-Pierre Michel, c'est qu'au fond, est juste la décision du plus fort. Celui qui a le plus de pouvoir dit ce qui est la justice. Là encore, c'est évidemment parfaitement absurde, et Jean-Pierre Michel n'assumerait pas lui-même une seule seconde sa propre affirmation, puisqu'il a lutté contre les lois votées par la droite pendant les 12 années précédentes, en disant qu'elles étaient terriblement injustes, et il a eu raison de le faire s'il considérait qu'elles l'étaient. Et pourtant, elles étaient votées par une majorité. Et donc, s'il disait qu'elles étaient injustes, c'est bien qu'au fond, il y a quelque chose qui dépasse le pur et simple rapport de force dans l'exercice politique, et encore une fois, ce qui dépasse le pur et simple rapport de force, ce qui dépasse la loi de l'affirmation du désir individuel, ce qui nous ouvre à la dimension de la communauté, c'est le bien commun. C'est le fait que la loi est orientée autour, envers et en direction d'un bien qui nous est commun. Et c'est cela précisément qui constitue la communauté politique. Or, si la loi sert le bien commun et qu'elle sert en second rang d'abord, vous l'aurez compris du coup, le bien le plus faible, le bien le plus petit, le bien le plus fragile, là encore, pour nous faire sortir de l'expression de la loi de la jungle, si la loi sert le bien commun et le bien le plus faible, alors dans ce cas, on peut dire que la loi a un certain rapport avec la liberté. Pour une raison très simple, c'est que si la loi nous dit ce qui est bon, elle nous dit aussi, d'une certaine façon, ce qui est authentiquement désirable. Alors là, je voudrais vous ramener à vos souvenirs de terminal. Et revenir à l'origine même de la philosophie, c'est-à-dire à la parole socratique et au premier dialogue platonicien. Et vous savez que la question de la justice, c'est la question platonicienne par excellence, c'est la question que Socrate dont Socrate vient irriguer chacun des dialogues de Platon. Dans un dialogue de Platon très important qui s'appelle le Gorgias, Socrate discute avec Calliclès de la question donc de la justice. Et Calliclès, qui est un sophiste, dit à Socrate, pour moi, Socrate, ton idée de la justice, et Calliclès en fait assume le propos de Jean-Pierre Michel, ton idée de la justice est absolument dérisoire. Hein, le propre du bon politique, c'est de prendre le pouvoir, et quand il a pris le pouvoir, le propre du bon politique, c'est de servir ses propres intérêts, d'avantager ses ennemis, et de desservir ses ennemis, d'avantager ses amis, pardon, d'avantager ses amis, vous voyez, je suis un politique beaucoup trop naïf, d'avantager ses amis et de desservir ses ennemis. J'essaie d'être un bon politique. Et tous ceux qui se laissent guider par d'autres considérations sont des naïfs ou des imbéciles. Ce à quoi Socrate répond la chose suivante. Au fond, encore une fois, le politique qui se comporterait de cette façon-là nie la réalité même de la politique, c'est-à-dire la réalité même de la communauté politique, du fait que, encore une fois, nous avons quelque chose en commun. Il se présente comme celui qui a vaincu dans la guerre de tous contre tous, et il sert son intérêt. Mais la guerre de tous contre tous, c'est la loi de la jungle, encore une fois, c'est quand il n'y a pas de politique. Donc, le politique doit servir le bien. Or, le bien, c'est ce que nous recherchons tous, parce que le bien, c'est ce qui sert notre bonheur, notre réussite individuelle et collective. Parfois, il nous arrive de nous tromper sur ce qu'est le bien. Il nous arrive de faire erreur. Et c'est là que nous construisons tout seul notre propre malheur. Celui qui fait le mal, dit Socrate, fait son propre malheur. Précisément, si nous considérons que le bien est autre chose qu'une restriction de la liberté, que le bien c'est ce qui accomplit l'homme, que le bien c'est ce qui accomplit la société, eh bien tout le monde, en vérité, désire le bien. Il se produit simplement que, parfois, nous faisons erreur sur la nature du bien que nous cherchons. Il se produit parfois que, comme Calliclès, nous pensons que le bien c'est d'accumuler le plus possible de richesses matérielles. Et de cette façon-là, eh bien, en fait, nous nous rendons terriblement malheureux. Donc le bien, c'est d'abord ce qui accomplit l'homme. C'est d'abord ce qui accomplit l'homme dans son rapport à lui-même et dans son rapport à la société. Et si la loi doit servir le bien, alors elle sert, d'une certaine façon, le désir authentique de l'homme. Elle sert le désir authentique de l'homme. La véritable liberté, c'est la liberté de celui qui sait ce qu'est le bien et qui le cherche en vérité. C'est la liberté, pardon, de celui qui se laisse guider par une conscience juste de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour l'homme et pour la société. Et donc, en réalité, celui qui fait le mal, dit Socrate, il faut d'abord le plaindre. Personne, dit Socrate, ne fait le mal volontairement. Nul n'est méchant volontairement. C'est le grand postulat platonicien initial. Nul n'est méchant volontairement. C'est vertigineux comme idée. Celui qui fait le mal, en fait, fait son propre malheur. Alors, du coup, Socrate, évidemment, en vient à cette situation extraordinaire de dire qu'au fond, celui qui fait le mal, il faut d'abord le plaindre. Il faut d'abord se lamenter sur son sort. Là, imaginons qu'à la fin de cet entretien, vous rentrez chez vous, vous arrivez devant votre maison et vous venez d'être dévalisé. Bien, votre premier mouvement de réaction, si vous êtes authentiquement fidèle à la parole socratique, ne doit pas être de dire « Ah, le salaud !» Ça doit être de dire « Oh, le pauvre !» Parce que précisément, hein, bien mal acquis ne profite jamais. Hein, le fait de vivre dans le vol, le fait de vivre dans le mensonge, le fait de vivre dans la dissimulation, le fait de vivre contre la loi, ne peut que rendre malheureux. Voilà ce que nous dit Platon. Et c'est très intéressant comme position. Parce que ce que dit Platon, c'est que du coup, la loi, en cherchant le bien de tous, cherche aussi à servir une liberté authentique. Celui qui commet le mal ne le fait pas volontairement. Dire qu'il ne le fait pas volontairement, ça veut dire qu'il ne le fait pas librement. S'il savait, il ne ferait pas ça. S'il savait, il ne se rendrait pas malheureux tout seul. Alors, la grande clé de décision, et ça pour le coup c'est une question que nous n'aurons jamais fini de trancher, la grande clé de décision entre Socrate et Calliclès, c'est la question de savoir si le méchant peut être heureux. Est-ce que les salauds sont heureux? Ça c'est la grande question, vous voyez, c'est la question fondamentale. Mais pour Socrate, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, vous voyez. Faire le bien, servir la justice, c'est là qu'on rencontre le véritable bonheur. À la limite, celui qui fait le mal et qui ignore ce qu'est le bien peut, d'une certaine façon, ignorer même son propre malheur. Ça ne veut pas dire qu'il connaisse le bonheur. Ignorer son malheur ne signifie pas encore être heureux. Ne pas être malheureux ou ne pas savoir qu'on n'est pas heureux ne signifie pas encore que l'on soit heureux. Mais ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'on se replace dans une perspective où la loi n'a plus rien à voir avec une restriction nécessaire de la liberté. Il ne s'agit pas de dire, vous savez, comme la philosophie moderne, hein, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence, il faut fixer des lois parce que si on est trop libre, on se marcherait les pieds sur les pieds des uns des autres, etc. Non. Dans la conception platonicienne, la loi n'est pas une restriction nécessaire de la liberté, restriction pénible mais nécessaire, la loi c'est ce qui sert notre liberté authentique. Parce que la loi nous aide à nous diriger vers le bien. Quand le législateur dit « il ne peut pas voler », il ne fait pas que protéger la propriété privée. Il nous protège de notre propre ignorance. Il nous protège de cette tentation qui consisterait à croire qu'acquérir de façon vicieuse le bien d'autrui pourrait servir notre bonheur. Quand le législateur dit « il ne faut pas voler », il sert notre propre épanouissement personnel. Extraordinaire. Et de fait, rien n'est plus malheureux qu'un méchant, dit Socrate, et le pire de tout, c'est rien n'est plus malheureux que le méchant qui n'a pas été puni. Alors lui, il faut le plaindre absolument. Vous voyez, parce qu'à la limite, le voleur qui se fait attraper par la police, chance, pas pour la société d'abord, chance pour lui d'abord. Parce qu'on va lui expliquer que ce qu'il a fait, c'était pas bien. On lui donne une occasion de comprendre qu'il a fait erreur, qu'il s'est trompé, qu'il était engagé sur la mauvaise voie. Et donc, au fond, immense chance pour le voleur d'avoir été attrapé par la police. Et justement, c'est l'occasion pour lui de revenir à la vertu qui accomplit l'homme, de revenir à la vie bonne, de revenir au bien. Le vrai problème, la vraie désolation, l'immense tristesse, c'est pour le voleur qui a acquis une immense fortune et que personne n'a jamais attrapé. Ah, lui, vraiment, il faut le plaindre terriblement, dit Socrate. Hein, c'est une situation catastrophique pour lui, parce que justement, personne n'a réussi à le remettre dans la voie du bien. Je pousse évidemment le raisonnement assez loin. Évidemment, le propos de Socrate a quelque chose de paradoxal, surtout pour nous, encore une fois, les hommes de la modernité, qui pensons que la loi est une restriction. Parfois, nous pensons qu'elle est inutile, parfois, nous pensons qu'elle est nécessaire, mais nous pensons que la loi est une restriction de notre liberté. Eh bien, ce que nous dit Socrate, ce que nous dit la philosophie platonicienne, c'est que la loi n'est pas une restriction nécessaire à la liberté pour que nous puissions vivre ensemble le moins mal possible, mais que la loi, c'est ce qui accomplit notre recherche authentique du bien, et donc notre recherche authentique du bonheur. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, le législateur est fondé à s'exprimer sur ce qui est bon pour l'homme, et sur ce qui est mauvais pour l'homme, sur ce qui est bon pour la société, et sur ce qui est mauvais pour la société. Là encore, nous ne voulons plus parler du bien et du mal. Je fais juste une toute petite parenthèse sur ce point. Nous ne voulons plus parler du bien et du mal parce que nous pensons que dire qu'il y a un bien et un mal, ce serait une restriction insupportable à notre liberté. S'il y a un bien et un mal, on n'est plus libre. Et donc, chacun sa conception, chacun ses convictions, chacun sa vérité, chacun a son idée de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Chacun ses valeurs, d'ailleurs. Vous observerez que le lexique des valeurs, je fais digression sur digression, pardonnez-moi, vous observerez que le lexique des valeurs est un lexique profondément relativiste. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Dans cette salle-là, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Et c'est tout à fait normal. Non, non. Par exemple, je sais pas, imaginons que j'ai sur moi une photo de ma famille, par exemple. Elle aura beaucoup de valeur pour moi. Elle aura probablement très peu pour vous, voire quasiment aucune. Vous ne connaissez pas les gens qui sont sur la photo. Et pour moi, ce sera peut-être une image qui a une valeur infinie. C'est, on reconnaît toute la difficulté pour les assurances d'assurer un bien qui a une valeur affective et aucune valeur marchande, c'est-à-dire aucune valeur commune. Donc nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Les valeurs sont le produit d'une évaluation qui dépend de notre histoire, de notre mémoire, de notre expérience. Et de fait, les choses auxquelles nous accordons de la valeur peuvent varier sans que cela représente un problème particulier. C'est tout à fait normal. Dire qu'on se bat pour ces valeurs, c'est dire qu'on se bat pour des choses qui nous tiennent à cœur. Mais la politique, justement, ne consiste pas à se battre pour ces valeurs, elle consiste à se battre pour ce qui est juste et ce qui est bon pour tous. Et pas simplement pour ce qui est juste et ce qui est bon dans nos propres convictions. À titre personnel, si je me suis engagé contre le mariage pour tous, c'est que je pense que cette loi est profondément dangereuse pour la société dans son ensemble, et qu'elle est même dangereuse pour les personnes qui sont censées en être les bénéficiaires. Je ne me suis pas engagé contre cette loi au nom de mes valeurs, parce que je voulais protéger un modèle culturel dans lequel je suis né, et que mes parents m'ont transmis, et qui me plaît, et que je n'ai pas envie de voir changer. Ça n'est pas une question d'affectivité ou de sensibilité personnelle, c'est une question de conviction qui touche à la vérité et à la justice, considérées dans leur objectivité. Nous ne voulons plus parler du bien et du mal, et du coup nous n'arrivons plus à parler ensemble. Précisément la politique, dit Aristote, ça n'est rien d'autre que le fait de parler ensemble du juste et de l'injuste. Nous n'arrivons plus à vivre l'expérience politique parce que nous ne pouvons plus nous parler du juste et de l'injuste. Si chacun a ses conceptions du bien et du mal, de fait, on est comme Jean-Pierre Michel. Quand vous avez qu'à gagner les élections, vous nous imposerez vos valeurs. Mais là, vous avez perdu. C'est dommage. Alors à quoi ça servait de faire des auditions au Sénat? Et ils avaient qu'à imposer tout de suite. D'abord, c'est ce qu'ils ont fait. Mais vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, ça veut dire, bon, au fond, chacun ses valeurs et le plus fort impose ses valeurs. C'est ça le relativisme absolu. Le relativisme qui nous promet la paix, en fait, fait la guerre. Fait la guerre de tous contre tous. Précisément, chacun fait la guerre au nom de ses valeurs, en prenant l'étendard de sa propre famille de pensée, de sa propre sensibilité collective. La véritable paix sociale, la véritable expérience démocratique, elle commence par le fait de reconnaître qu'il y a quelque chose qui est juste et que nous cherchons tous ensemble à savoir ce qui est juste. Et donc nous avons besoin de parler ensemble de ce qui est juste. Et c'est ce que nous ne faisons plus. C'est ce que nous n'arrivons plus à faire. Nous n'arrivons plus à parler du bien et du mal. Et du coup, tout débat se termine par le point Godwin. L'année dernière, grande expérience du point Godwin. Vous savez, le point Godwin, c'est cette statistique établie par un mathématicien américain qui dit que sur Internet, alors c'est vrai sur Internet, mais c'est vrai de n'importe quelle conversation à la vie réelle, sur n'importe quel sujet qui parle de politique, au bout de 7 répliques, on parle d'Hitler. Et pourquoi? Parce que Hitler, ça reste le mal absolu, vous voyez. Alors, on est tous d'accord pour dire que chacun son bien, chacun son mal, chacun ses convictions, etc. Mais bon, il y a quand même un repère, il y a quelque chose qui est mal, et on s'accorde tous à dire que c'est mal, c'est le nazisme. Et donc, quand on veut parler de l'injustice, on parle forcément du nazisme. Parce que c'est notre seul repère commun, vous voyez. C'est la seule chose dont tout le monde admet que là, pour le coup, il n'y a pas de relativisme possible. Hein, celui qui se prononce en disant « Non, moi, quelque part, dans mes valeurs, je serais plutôt nazi, il faut quand même me respecter dans mes convictions. » Alors, lui, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on ait bien un repère commun. Et ce repère commun, vous voyez, c'est Hitler. Voilà. Il ne reste plus que ça pour parler ensemble. Et de fait, terrible, mais l'année dernière, on a passé notre année à se traiter de nazis les uns les autres. Bon, on s'est beaucoup fait traiter de nazis, mais ça nous est arrivé aussi de dire, voilà, qu'il y avait des choses qui nous inquiétaient et qui ressemblaient au totalitarisme dans ce qui était en face de nous. Je dis pas que nous avons eu tort, hein. Je dis simplement que la seule façon qui nous reste de nous parler ensemble, c'est de parler d'Hitler, parce que c'est le seul repère commun qui nous reste. Et ça, c'est la fin de la démocratie. C'est la fin de l'expérience démocratique. C'est l'impossibilité même du débat. D'où la frustration de l'année dernière. On nous a dit, attendez, votre histoire, on en a parlé toute l'année. Mais en fait, on a l'impression de ne jamais avoir vraiment parlé. Et ça, on n'en a pas parlé. Justement parce qu'on est rentré dans cette perspective qui nous dit que la loi est une contrainte qui s'impose au nom d'un certain nombre de valeurs. Et que quand ces valeurs sont dépassées, il faut savoir annuler les contraintes pour produire une plus grande liberté. Mais à aucun moment, nous n'avons parlé du bien commun. À aucun moment, nous n'avons parlé du juste et de l'injuste. Or, il me semble qu'il faut revenir à une conception de la loi, et que même nous avons besoin de revenir à une conception de la loi qui ne soit pas la simple expression de notre décision arbitraire, inspirée par nos valeurs, pour imposer un certain cadre et une certaine discipline, mais de la loi comme guide, comme direction, comme orientation, tout entière tournée vers le bien et vers le bien commun. Je ne dis pas que la loi soit toujours corrélée à ce qu'est le bien en vérité, je ne dis même pas qu'elle puisse y parvenir, je dis que toute l'expérience politique consiste à faire en sorte que nos lois soient toujours plus justes, toujours plus ajustées à ce qui est véritablement bon pour la société dans son ensemble et pour les plus fragiles en particulier. Je termine ce premier point en vous disant simplement que de cette conception de la loi, nous pouvons tirer une forme de consolation. Et nous la tirons encore une fois dans l'analyse de Socrate. Socrate qui, au fond, celui qui est vraiment malheureux, c'est le méchant. Et Caligas se moque de lui en lui disant « Mais t'es vraiment un faible, Socrate. » C'est-à-dire que toi, en fait, t'es incapable de voler parce que t'as trop peur. Et du coup, tu dis « Il faut pas voler. » Et du coup, tu te crois, oui, tu te crois vertueux en disant hey, « Tout ce que t'es pas capable de faire, tu dis qu'il faut pas le faire. » Et comme ça, tu transformes ta faiblesse en vertu. En réalité, ce que Socrate dit, c'est que pour pousser cette expression de la faiblesse assumée jusqu'au bout, ce que Socrate dit, c'est que le plus malheureux, c'est celui qui fait le mal. Et que d'une certaine façon, il est infiniment préférable de subir l'injustice plutôt que de la commettre. Et je crois que cette expérience de Socrate, qui est d'ailleurs une expérience de vie, hein, puisque, comme vous savez, la vie de Socrate se termine par la condamnation à mort par le tribunal athénien, cette expérience de Socrate, bien, parfois, nous pouvons avoir le sentiment de la rejoindre, justement dans cette incapacité du débat et dans cette injustice qui nous a bien souvent été faite. Et combien de fois j'ai trouvé une forme justement de consolation intérieure dans le fait de rejoindre l'expérience socratique. Nous avons le sentiment de vivre l'injustice, c'est vrai, nous vivons une société d'injustice et nous en sommes parfois, pas seuls, mais nous en sommes parfois les victimes. Au fond, ce qui peut nous inspirer cette consolation, c'est que finalement subir l'injustice n'est rien si l'on continue à rechercher en vérité le bien et la justice. Et finalement, il n'y a que ça qui compte. Vous connaissez peut-être la dernière réplique de Socrate à la fin de son procès. Si vous voulez lire un très grand texte de philosophie, si vous voulez vous y replonger, il n'y a rien de plus beau que l'apologie de Socrate, qui est la défense que Socrate fait à son procès devant les Athéniens. Et à la fin, à la dernière réplique de sa plaidoirie, il désigne ses accusateurs, qui s'appellent Anitos et Melitos, et il dit la chose suivante: « Anitos et Melitos peuvent me tuer, mais ils ne peuvent pas me tuer. » Magnifique. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors maintenant, il faut que je passe à mon deuxième point, parce que le temps tourne et que je vais être très en retard. Alors, deuxième point, donc, c'est la question, non plus de la loi, mais de la famille. Là encore, on nous dit que la famille est le lieu de transmission de stéréotypes qui enferment notre liberté. Alors, cette idée de stéréotype, eh bien, vous l'avez entendu très souvent, vous allez l'entendre encore beaucoup, le gouvernement fait la chasse aux stéréotypes. Les stéréotypes sont précisément tout ce qui restreint la liberté de l'individu, parce que le stéréotype, c'est ce qui s'impose à lui comme un type de conduite qui vient de l'extérieur, qui vient d'en haut et qui vient bien souvent de la famille. Qui est coupable de la transmission des stéréotypes? Qui est coupable par principe? Ce sont les parents. Parents dans cette salle, vous êtes tous suspects, et peut-être même, au fond de vous, vous êtes tous coupables. Voilà ce que, bien souvent, le gouvernement vous dit. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, hein, heureusement, l'État prend soin de vos enfants et a décidé, comme le dit notre ministre de l'Éducation nationale, d'arracher les enfants le plus tôt possible au déterminisme familial. Extraordinaire comme affirmation. Ça, c'est la transparence absolue de cette représentation de la famille comme lieu d'aliénation de la liberté. Hein, il faut que les enfants soient retirés le plus tôt possible à la tutelle parentale. Alors cette idée-là, elle est vraiment au cœur de toute la philosophie moderne. On la trouve dès le point de départ de la modernité, dès le travail de Descartes, par exemple, exprimé d'une très belle façon, dans les méditations métaphysiques ou dans le discours de la méthode. Hein, Descartes, vous savez, c'est d'abord l'histoire d'un philosophe qui fait sa crise d'adolescence à 40 ans. Hein, il a été élève des jésuites à la Flèche, un très bon élève, très discipliné, très sérieux. C'est, il le dit d'ailleurs sans aucune fausse modestie, le meilleur élève de la meilleure école d'Europe. Donc, il a tout reçu, etc. Et puis d'un seul coup, à 40 ans, il se rend compte que, eh bien, on lui a transmis beaucoup de choses, mais que rien de tout cela, il ne l'a produit. Rien de tout cela, il ne l'a choisi. Rien de tout cela, il ne l'a contrôlé. Et donc, Descartes, à 40 ans, se dit, il est temps que j'élimine de mon esprit la quantité de fausses opinions que j'ai reçues en ma créance, moi qui ai été, dit-il dans une formule magnifique, si longtemps placé sous la sujétion de mes parents et de mes précepteurs. L'enfant, c'est celui qui est sujet, qui est assujetti à ses parents, qui est assujetti à l'adulte. Hein, ce que nous dit Descartes, c'est que la véritable liberté, elle se trouve dans le travail de la déconstruction de ces opinions que l'on a reçues en sa créance lorsque l'on était un enfant. Être un enfant, c'est n'avoir pas encore sa raison tout à fait développée. Et le propre de l'enfance, c'est que vous n'avez pas encore véritablement la maîtrise de votre esprit critique. Et les adultes, ces méchants, en profitent pour vous faire entrer dans l'esprit tout un tas d'opinions, un tas d'idées, un tas de stéréotypes, dirait nos ministres, qui viennent enfermer notre liberté. Et donc, la véritable liberté, elle s'affirme comme la déconstruction de ce qui a été transmis. La déconstruction de ce qui a été transmis, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, la déconstruction de la tradition. Tradition vient du latin tradere, qui veut dire transmettre, la déconstruction de tout le contenu de la transmission. Et c'est ce que fait Descartes dans les méditations métaphysiques, vous savez, c'est l'acte fondateur de la modernité, c'est le doute méthodique, c'est-à-dire je vais inspecter toutes les idées que j'ai dans l'esprit et je vais révoquer toutes celles qui ne sont pas absolument certaines. Et quand j'aurai douté de tout, je pourrai reconstruire mon savoir à partir de moi-même. Je pense donc je suis, reconstruire un savoir qui parte de l'affirmation de la conscience individuelle. C'est ce que fait Descartes dans les méditations métaphysiques. Au fond, le drame de l'homme moderne est exprimé d'une façon très claire dès ce point de départ de la modernité qu'est la philosophie cartésienne. Dans une formule encore magnifique du discours de la méthode, Descartes écrit « Pour ce que nous avons été enfants avant que d'être hommes, et qu'il nous a fallu rester longtemps sous la suggestion de nos parents et de nos précepteurs, lesquels, étant souvent contraires les uns aux autres, ne nous étaient pas toujours favorables, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est cette simple expression « Pour ce que nous avons été enfants avant que d'être hommes. » Extraordinaire. Le drame de l'homme moderne, c'est qu'il a été un enfant. Catastrophe. pendant cette période de fragilité de la raison critique, la génération des adultes l'a saturée de stéréotypes, a profité de cette faiblesse de son esprit pour le former, pour le déformer d'une certaine façon. Le déformer, celui qui va accomplir cette idée d'une déformation de l'enfant par l'éducation, c'est Rousseau. Rousseau qui est le plus grand inspirateur de la pédagogie contemporaine. Alors là encore, il faudrait beaucoup plus que 2 heures pour parler simplement de la philosophie rousseauiste et notamment de son expression la plus importante qui est l'Émile. C'est pas si vous avez envie de redécouvrir la philosophie, mais si vous avez beaucoup de courage, vous pouvez relire l'Émile. Et c'est très beau, c'est extraordinaire, c'est d'une intelligence magnifique, mais c'est très gros, c'est assez épais. Donc il faut un peu de courage pour s'y attaquer, mais c'est un très bel ouvrage. Et c'est l'ouvrage qui a le plus inspiré la pédagogie contemporaine. C'est en quelque sorte, si vous voulez lire le programme de l'éducation nationale d'aujourd'hui, tout est écrit là-dedans. Vous savez, souvent on dit l'éducation nationale est en échec, c'est la faillite et tout, mais pas du tout. C'est une réussite absolue, l'éducation nationale. C'est une réussite parfaite, c'est la réussite du projet de Rousseau qui est écrit noir sur blanc quelques siècles avant qu'il se réalise et qui inspire aujourd'hui toutes nos conceptions de la pédagogie. Alors, que dit Rousseau dans l'Émile? Vous savez que le point de départ de Rousseau, je suis désolé, alors je suis obligé de vous ramener à ma déformation professionnelle et de vous faire un peu de philosophie, j'espère que ça ne vous pèse pas. Le point de départ de Rousseau, c'est que, au fond, l'homme est naturellement bon, que l'homme est bon par nature, et que c'est la société qui le permet. Là encore, ça vous rappelle le manuel de Tarte. L'homme est naturellement bon, et c'est la société qui permet. C'est l'idée que Rousseau développe à partir de ce grand événement de sa vie philosophique, qui est l'illumination de Vincennes. Alors Rousseau marche dans la forêt pour aller voir son ami Diderot, qui est emprisonné à Vincennes, pour avoir écrit la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Et il lit une petite gazette, et dans cette gazette, il y a un sujet qui est porté au concours. C'est l'Académie de Dijon qui propose un sujet au public érudit de l'époque. Et la question est la suivante: en quoi les sciences et les arts ont-elles contribué à l'amélioration du genre humain? Alors on est dans le siècle des Lumières, ça veut dire que tout le monde est persuadé que les sciences, la culture, les arts vont lutter contre les préjugés, les superstitions et les fanatismes pour enfin libérer les hommes de tout le poids de la tradition, justement. Et donc le siècle des Lumières, c'est celui qui fait l'encyclopédie, c'est celui qui adule le savoir comme une façon de lutter contre l'intolérance et la tradition. Et Rousseau, lui, n'est pas tout à fait un philosophe des Lumières, et ça commence dès ce moment-là, en lisant le sujet, il raconte, dans deux textes importants, il raconte qu'il a vécu une véritable illumination. D'un seul coup, Rousseau se dit, mais en fait, en réalité, c'est ça, les sciences et les arts ont perdu le genre humain. La culture, dit Rousseau, a civilisé les hommes, dans le second discours, la culture a civilisé les hommes et perdu le genre humain. Donc l'homme était naturellement bon, il était bon par nature, et il est perverti par la société. De fait, aujourd'hui, ça vous paraît étonnant, mais aujourd'hui, nous sommes tous rousseauistes, tous. Enfin, je veux dire, collectivement, la société contemporaine là, est tout à fait rousseauiste. Prenez-en, si vous voulez, si vous n'avez pas envie de lire l'Émile ou de lire le second discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité des hommes, vous prenez la traduction de Rousseau en 3 dimensions au cinéma, ça s'appelle Avatar, de James Cameron. Voilà, Avatar, c'est Rousseau. Vous avez 2 personnages dans Avatar, c'est très binaire. D'un côté, vous avez les gentils, c'est les grands bonhommes bleus, là, les navis, vous voyez. Alors, les navis, ils ne savent rien, ils sont parfaitement ignorants, ils n'ont aucune technique, aucun savoir, mais ils vivent en communion avec la nature, mais ils vivent de peu de choses, ils ont des besoins très simples, tous leurs besoins sont satisfaits, ils ont besoin de rien de plus, et ils sont très heureux, ils sont très bons, et ils vivent précisément dans cette harmonie initiale avec la nature que nous aimerions retrouver. Il y a d'ailleurs une forme de naïveté dans la représentation des navis qui est extraordinaire. Ils ont une grande queue de cheval avec laquelle ils se penchent sur les arbres, ils prient la terre, ils leur parlent, etc. Bref, ils ont cette communion avec l'environnement que nous voudrions retrouver, nous qui sommes aujourd'hui des citoyens éco-responsables et qui voulons construire une société durable du respect de l'environnement. Et de l'autre côté, il y a les méchants. Et les méchants, bah, c'est nous, qui ne sommes pas tout à fait encore éco-responsables. C'est-à-dire les hommes modernes. Alors, les hommes, dans le film de James Cameron, ils sont extrêmement savants. Ils sont tout le temps environnés d'une technique extraordinaire. Partout où les hommes apparaissent, il y a des écrans digitaux, ils ont des armes incroyables, des véhicules fabuleux, ils traversent l'espace, etc. Ils sont extrêmement savants. Ils sont extrêmement méchants. Ils veulent toujours consommer plus, ils veulent détruire parce qu'ils veulent consommer plus de ressources. Et ils sont parfaitement malheureux. Ils n'ont plus aucune compréhension de ce qu'est la nature, aucun contact avec la nature. Et ils sont à la fois donc cupides, savant, parfaitement malheureux et parfaitement méchant. Et donc, au fond, on voit très bien à travers ce film, qui est quand même le film qui a généré le plus de recettes dans toute l'histoire du cinéma, donc qui n'est pas spécialement un petit film d'auteur qui serait passé inaperçu, on voit très bien dans ce film à quel point nous, dans les sociétés occidentales, sommes profondément rousseauistes. C'est-à-dire, nous pensons que l'homme est bon quand il est dans son état naturel et que la culture, que la société pervertit l'homme. Alors, quelle est la traduction de cette grande idée pour la pédagogie? Eh bien, c'est l'Émile. Dans l'Émile, Rousseau raconte l'éducation d'Émile, d'un enfant qui s'appelle Émile, et il se met à la place du précepteur et il raconte comment il éduque. Et précisément, cet enfant, la principale chose qu'il va falloir faire, c'est justement le conserver dans son état naturel. Il est, vous voyez, l'enfant qui naît, il est encore dans son état naturel. Il faut le préserver autant que possible de l'influence néfaste de la culture. C'est ce que Rousseau appellera l'éducation négative. La première chose à faire, évidemment, pour le prémunir de toute transmission de la culture aliénante, c'est de le retirer à ses parents. Et Rousseau, lui, il va pas par quatre chemins, il est plus petit, il est plus audacieux, il est moins timide encore que Vincent Payon. Hein, il prend l'enfant à ses parents dès le moment où il est sevré. Voilà. Dès qu'il est sevré, le précepteur le prend en charge. Parce que ses parents, justement, ils auront forcément la tentation de faire peser sur lui le poids de la transmission. Ils auront forcément la tentation de vouloir reproduire leur propre connaissance, leur propre culture, leur propre valeur dans cet enfant qui leur est confié. Donc il faut que le précepteur le prenne en charge. Et ensuite il va s'employer à faire en sorte que l'enfant soit absolument prémuni, préservé de tout ce qu'encore une fois le gouvernement appelle aujourd'hui des stéréotypes, mais c'est-à-dire en fait de la totalité de la culture. Alors, toute la culture nous apprend une certaine façon d'être homme, et donc il faut évidemment éviter à l'enfant tout contact avec la culture. Rousseau écrit dans l'Émile, « Je lui apprends bien plus à ignorer qu'à savoir. » Si ce n'est pas le programme de l'éducation nationale, je sais pas. Ça, je suis enseignant, hein, donc je fais l'autocritique de ma corporation. Et je vois qu'on nous a beaucoup appris aussi, nous les enseignants, à ne pas transmettre. C'était le leitmotiv de l'IUFM. J'ai été le témoin de la dernière promotion des IUFM, le témoin ou le patient, en quelque sorte, l'impatient-patient de la dernière promotion des IUFM. Et je vais vous dire, c'est exactement ce leitmotiv qui revient tout le temps. Les enseignants ne doivent pas transmettre un savoir. Hein, alors, Rousseau écrit ça de façon magnifique, mais dans le jargon de l'éducation nationale, c'est tout de suite beaucoup moins poétique. On dira que dans la classe, il n'y a pas un sachant et des apprenants. Hein, il faut que l'enseignant crée les conditions dans lesquelles l'élève va produire son propre savoir. Et tout ça, vous voyez, encore la doxa de l'éducation nationale. Précisément, ce qui est banni, c'est l'acte même de la transmission, parce que la transmission est aliénation. La transmission est aliénation. Alors, je ne développe pas plus longtemps, parce que je n'ai pas le temps, mais oui, il faut bien comprendre ce point-là, c'est que l'enfant devient ce qu'il faut préserver de la culture, ce qu'il faut préserver des stéréotypes, ce qu'il faut, celui auquel il faut éviter d'être pollué par le prisme de la culture. Et donc on voit se prolonger l'intuition cartésienne qu'au fond, la véritable liberté, elle se joue dans le fait de se débarrasser de l'influence de la transmission, de se débarrasser de l'influence de la culture, et donc en particulier de se débarrasser de tout l'aide familiale. Très important, le grand ennemi de la liberté de l'enfant, c'est d'abord évidemment sa famille, parce que dans la famille s'opère l'acte de la transmission. Et donc il faut évidemment en préserver l'enfant. D'où le renversement tout à fait inouï qui caractérise la société contemporaine dans le regard porté sur l'enfant. Quand on lit des textes de philosophie classique, on est souvent très étonné de la question éthique qui se pose à propos de l'enfant. Par exemple, Aristote se demande si les enfants, ça nous paraît très étonnant, Aristote se demande si les enfants peuvent être heureux. Et sa réponse, c'est que non. En fait, les enfants ne peuvent pas être heureux. Pourquoi ? Parce que être heureux, c'est être accompli, c'est être achevé, c'est être dans l'accomplissement de ses facultés. Or, l'enfant, il est en train de s'accomplir, il est en route vers l'âge adulte, mais il est encore dans un stade initial de ce développement. Il n'a pas du tout encore accompli la plénitude de ses potentialités. Et donc, plus on grandit, plus on a des chances d'être heureux. Plus on vieillit, plus on a des chances d'être heureux. Hein, plus on vieillit, plus on mûrit, plus on gagne en expérience, plus on s'accomplit, plus on se réalise, et donc plus on progresse vers le bonheur. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, tout a changé. Si être heureux, c'est être dans l'état de nature, le plus heureux, c'est l'enfant. C'est celui qui est encore précisément dans son état naturel, celui dont la spontanéité nous émerveille, celui qui n'a pas été pollué par les préoccupations de la vie sociale. Et grandir, c'est une malédiction. Le plus heureux, c'est l'adolescent. Le plus heureux, c'est l'adolescent, précisément. L'adolescent est indifférent. Comme Émile dans Rousseau, comme le pont sauvage rousseauiste, l'adolescent, comme le navire, l'adolescent est dans une parfaite indifférence à tout ce qui l'entoure, et donc il est parfaitement heureux. il est dans son état naturel. Alors qu'évidemment, grandir, c'est s'exposer en permanence aux pollutions de la vie sociale, à la perturbation de la vie en société, et grandir, c'est une catastrophe absolue. Regardez, la société contemporaine, hein, 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie, 25 ans, c'est une barrière dangereuse, 30 ans, c'est le début des ennuis, à 40 ans, on n'est plus son âge, et après, on préfère ne pas y penser. Vous voyez, c'est terrifiant d'ailleurs, parce qu'on a pris justement l'adolescence comme modèle, alors que justement, l'adolescence n'est rien d'autre qu'une phase de transition vers l'âge adulte où l'on s'accomplit. Alors justement, revenons sur cette question de la transmission, et je voudrais simplement essayer de vous montrer, pour conclure mon propos, précisément que cette vision de la transmission est là encore, je le crois, profondément infondée et profondément contraire à notre expérience. Prenons, si vous voulez, le cas tout simple pour commencer de ce que le siècle des Lumières a appelé les enfants sauvages. Vous avez peut-être entendu parler des enfants sauvages. L'enfant sauvage, c'est le cas de ces enfants qui ont, qui auraient été abandonnés par leurs parents. Au début du XVIIIe siècle, il y a eu une vague une période entière de très mauvaise récolte et de disette, et dans cette période-là, beaucoup d'enfants ont été abandonnés dans la nature par leurs parents, et quelques-uns auraient réussi à survivre. Alors on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de ces cas étaient en fait des histoires fausses, mais il demeure un doute et un soupçon sur certaines situations. Par exemple, le cas de Victor de l'Aveyron, le plus connu des enfants sauvages. Victor de l'Aveyron, donc, qui est censé avoir grandi dans la nature, est retrouvé à un âge qui est environ 14 ou 15 ans. Et il est hébergé, accueilli par un médecin qui s'appelle le docteur Jean Itard, qui nous a rapporté, qui nous a fait une relation de la situation dans laquelle se trouvait le petit Victor quand il l'a trouvé. D'abord, le petit Victor, c'est lui qui lui a donné un nom, parce qu'il n'en avait pas. Victor de l'Aveyron, évidemment, qui a grandi au milieu des animaux dans la nature, ne parle pas. Il n'a pas de langage. Il n'a donc, d'une certaine façon, aucune conscience de lui-même. En tout cas, il ne témoigne d'aucune conscience de lui-même. Il ne se reconnaît pas dans un miroir. Il n'a pas de pensée personnelle, puisque la pensée suppose les mots pour s'exprimer, et il semble que son rapport au monde et son rapport à ses semblables soient exclusivement déterminés par l'expression de ses besoins primaires, le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de boire, etc. La question qui est posée est la suivante. Victor de l'Aveyron est-il plus libre pour avoir été prémuni de toute influence culturelle? Est-il plus libre pour avoir été épargné de toute la transmission aliénante qui est infligée aux autres enfants de son âge? La réponse est évidemment non. Et c'est là que nous pouvons rentrer dans ce paradoxe, ou pourrait-on dire même ce mystère, si vous voulez, que j'appellerais le mystère de la médiation. Le propre de l'homme, c'est qu'il est un être de médiation. Ça veut dire que l'homme n'est pas immédiatement lui-même. Et c'est d'ailleurs sa grande différence par rapport au reste des êtres vivants, au reste notamment du règne animal. Les animaux sont des êtres d'immédiateté. L'animal n'a pas besoin d'éducation pour accomplir ses potentialités. Il n'a pas besoin de transmission pour posséder le savoir qui lui sera nécessaire. L'animal possède par instinct la quasi-totalité, disons, de la connaissance, du savoir, de la technique qui lui sera nécessaire pour agir et survivre dans le monde. Et de fait, vous pouvez dresser un animal, vous pouvez, si on veut, l'éduquer, vous pouvez lui transmettre certains savoir-faire, mais la part de l'acquis est chez l'animal très faible. La part de l'inné est au contraire immense. Chez l'homme, elle est pour le coup très faible. On peut le voir dans une immensité d'exemples. Je vois que mon temps de parole est en train de diminuer à toute vitesse. Non ? Alors, prenons un exemple. Prenons par exemple, si vous voulez, l'exemple du coucou. Vous connaissez le coucou. Le coucou est un animal extraordinaire. Le coucou a une technique tout à fait redoutable. Il pond ses œufs dans le nid d'un autre oiseau. Prenez par exemple la petite merlette, elle fait son nid, voilà, elle pond ses œufs, elle va se promener, hein, elle va chercher des brindilles, etc. Et pendant ce temps-là, la maman coucou passe, elle pond son œuf dans le nid de la petite merlette. Là, vous vous dites, il est complètement fou. Non, mais regardez, c'est génial. La petite merlette revient, elle n'a rien compris à l'histoire, elle couvre les œufs. Dans les œufs, il y a les siens, mais il y a aussi l'œuf du petit coucou. Il se trouve que le petit coucou arrive à maturité plus tôt que les autres oiseaux. Et quelle est la première chose que fait le petit coucou? Il sort la tête de sa coquille, la première chose qu'il fait, il casse les autres œufs autour de lui et il les jette par-dessus bord. La question est la suivante. Attention. Qui a appris au petit coucou ce qu'il devait faire pour éliminer ses concurrents dans la lutte pour la survie? C'est extraordinaire, mais l'instinct animal nous dépasse complètement. Proprement, le coucou est immédiatement lui-même. Il n'a pas besoin de médiation pour posséder le savoir qui lui est nécessaire pour survivre. Et cette immédiateté, elle est fascinante. On pourrait en prendre encore plein d'exemples, vous voyez. Et c'est extraordinaire. Bon, le propre du philosophe est de s'étonner, et s'étonner en grec, c'est le même mot que s'émerveiller, donc le philosophe s'émerveille. Et on peut s'émerveiller précisément de la différence, de l'altérité du règne animal. Chez l'homme, évidemment, il en va tout autrement. Le petit bébé, le petit homme, bah, son instinct est extrêmement faible. Tout ce qu'il sait faire, c'est crier quand il a faim pour appeler la nourriture. Vous voyez, l'instinct de l'homme est extrêmement peu développé comparativement à l'instinct d'une très grande variété d'espèces animales. Bon, évidemment, le propre de ce rapport immédiat à soi-même, c'est qu'il du coup, il induit une certaine fixité. Ça veut dire que depuis qu'il y a des merles et des coucous, les coucous font le même coup aux merles et les merles se font toujours avoir par le coup du coucou. Et ça ne changera pas. Alors que chez l'homme, au contraire, cette distance que nous avons à nous-mêmes permet justement que nous puissions entrer dans la dynamique d'un progrès, d'une amélioration, d'une évolution. Mais ce qui est très important, encore une fois, c'est de bien considérer la singularité de l'homme qui fait que l'homme a besoin de la médiation pour être vraiment lui-même. C'est-à-dire que Victor de l'Aveyron n'est pas autant lui-même, il ne coïncide pas autant avec sa propre personnalité que s'il avait pu bénéficier de la transmission de la culture. Et notamment de cette première forme de transmission, qui est la transmission de la langue. Précisément, la langue qui nous a été transmise, c'est un produit culturel. C'est le résultat d'une tradition. C'est le résultat d'une histoire contingente. Il y a plein de langues sur la Terre. Une histoire accidentée, une histoire faite de hasard et de retournement. Et notre langue, elle est le résultat de cette longue maturation qui n'obéit pas spécialement à une rationalité précise, mais qui obéit à la variété des influences, à la variété des événements historiques. Et cette langue qui nous a été transmise, qui nous a été imposée avec sa discipline propre, avec son orthographe, sa grammaire, sa syntaxe, cette langue que l'on nous a appris à bien parler, dont on nous a transmis les règles et la discipline, c'est dans cette langue que notre pensée naît. C'est dans cette langue que naît une liberté authentique de la pensée. Et ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, la culture qui nous est transmise nous permet de rejoindre notre propre nature. Le propre de l'homme, c'est qu'il n'est pas immédiatement ce qu'il est. C'est qu'il a besoin de cette médiation pour devenir ce qu'il est. Vous savez que la devise que Socrate assigne à la philosophie naissante, c'est cette devise delphique, deviens ce que tu es, deviens ce que tu es. C'est très bizarre comme phrase, c'est très très étrange. D'habitude, on devient ce qu'on n'est pas encore. Quand j'étais en terminale, je voulais devenir prof de philo. Voilà, maintenant, je ne me lève pas tous les matins en disant « j'aimerais tellement devenir prof de philo, je le suis, vous voyez, c'est bon. » Mais en fait, en réalité, le grand paradoxe, le grand mystère qui est au cœur de la nature humaine, c'est que nous avons toujours à devenir plus ce que nous sommes. Et que nous devenons ce que nous sommes par la médiation de la culture, par la rencontre avec l'autre. Et que l'autre, c'est le chemin qui nous guide vers nous-mêmes. Et notamment, ce premier autre, qui est le père ou la mère. Nos parents sont les premières figures de la médiation qui nous a conduit jusqu'à nous. Éduquer un enfant, ça n'est pas, encore une fois, lui transmettre certaines valeurs, certaines disciplines qui vont restreindre un peu sa liberté, mais bon, il faut bien restreindre un peu sa liberté pour qu'il marche droit. Non, transmettre à un enfant une culture avec ses règles, avec sa conception morale, avec le regard que cette culture nous aide à porter sur le monde, c'est transmettre à un enfant, non pas une restriction de sa liberté, et transmettre à un enfant sa liberté. Et c'est ça, au fond, que toute la culture contemporaine ignore. Et ça qui est très inquiétant dans le phénomène du genre, par exemple. Parce que quand les partisans du genre disent qu'ils veulent déconstruire les stéréotypes culturels, en fait, ils veulent déconstruire la culture. Et la grande idée qu'ils ont, c'est que si on retire la culture à l'enfant, ben, il sera un peu plus libre. Ah, parce que déconstruire les stéréotypes culturels, les stéréotypes sexués dans la culture, ça veut dire déconstruire toute la culture. La culture est tout entière construite autour de stéréotypes sexués. Donc, prenez les mots papa et maman, et ça y est, les premiers mots que nous avons prononcés dans notre vie, ils ont déjà une histoire, et cette histoire, elle est tout entière habitée par la conscience de la différence sexuelle. D'où vient le mot maman? Il vient du latin mater, qui vient lui-même du latin materia, qui veut dire matière. Donc, dans le mot mère, dans le mot mater, il y a l'idée que la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme donne chair à l'enfant. Que la femme donne matière, que la femme donne corps à l'enfant qui va naître. Ça, c'est la grande frontière de la différence sexuelle. Et quand un enfant dit « maman », quand il prononce le premier mot de sa vie, il est déjà en train d'utiliser un syntagme qui appartient à une tradition plurimillénaire par laquelle la culture exprime un stéréotype. Voilà. Un stéréotype, ça veut dire que précisément, la mère n'est pas exactement la même chose que le père. Et donc, si vous voulez déconstruire les stéréotypes sexués, vous pouvez y aller, vous allez déconstruire toute la culture. Et vous allez commencer par déconstruire toute la langue. C'est la raison pour laquelle on va nous imposer une magnifique réforme de l'orthographe. Il faudra écrire E-E-S, vous voyez, parce que parmi les stéréotypes sexués, le plus insupportable, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin quand il est employé comme neutre. Donc, il va falloir justement se battre, non pas pour libérer la culture de tous les stéréotypes sexués, mais pour se délibérer, pour se libérer de la culture elle-même, se débarrasser de la culture elle-même. Je reviens donc au point où nous étions placés. Ce que je voudrais vous montrer simplement, et j'espère que ça n'est pas trop rapide pour cela, mais malgré tout c'est peut-être une toute petite intuition que je vous laisse toucher du doigt et je suis certain qu'elle ouvrira la voie à de nouvelles réflexions, c'est précisément que la famille, c'est le lieu où naît la liberté. Que la famille, c'est le lieu où est née notre liberté. C'est le premier lieu où la liberté commence. La famille, encore une fois, et la transmission qui s'opère dans la famille, nous ne devons pas la regarder, même nous ne devons pas la regarder comme le lieu d'une restriction nécessaire, peut-être pénible, mais quand même utile de la liberté. Lorsque nous apprenons à un enfant à se diriger d'une certaine façon, lorsque nous aidons un enfant à poser des mots sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais, nous ne sommes pas en train de le fixer dans les stéréotypes, nous ne sommes pas en train de lui imposer nos valeurs, de reproduire un schéma que nous apprécions. Nous sommes en train de lui offrir la voie de sa seule liberté. Et ne jamais dire à un enfant ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est le laisser devenir le tyran de lui-même. C'est le livrer précisément à l'arbitraire de son propre instinct, c'est le rendre incapable de se reconnaître lui-même dans la recherche de ce qui est le meilleur pour lui. Et donc au fond, je crois que ce qui est décisif, c'est de regarder la famille pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire comme le lieu où s'accomplit la seule véritable liberté. Je termine en disant deux choses, et ce sera la conclusion. La première chose, c'est que la famille est justement lieu de liberté en tant qu'elle est lieu de transmission de la culture, et en tant que la culture est tout entière habitée par la loi. Et ainsi, je fais la jonction entre famille, loi et liberté. Habitée, hein. Vous savez que les étudiants ont toujours très peur des sujets à trois termes, parce qu'ils ne savent jamais comment les articuler. En fait, ça n'est pas toujours très simple, mais en même temps, ici, il y a une façon très, très simple de voir comment, justement, la famille est le lieu où nous entretenons le premier rapport à la loi, le premier rapport à la culture en même temps. Et les deux sont solidaires. Je m'appuie sur le travail d'un philosophe qui s'appelle Carl Schmitt, qui s'est lui-même appuyé sur les travaux de plusieurs linguistes dans un petit article qui s'appelle « Nomos nam ». Le postulat de Schmitt, c'est que le nom a quelque chose à voir avec la loi. « Nomos » en grec veut dire « la loi », la règle commune, et « nam » en allemand, la langue de Schmitt, veut dire le nom que l'on donne à quelqu'un. Le propre des parents, c'est qu'ils transmettent à l'enfant à la fois le nom et la loi, à la fois la culture et la règle, à la fois le sens de cette médiation qu'est la culture et le sens de la loi qui nous aide à chercher le bien. Dans la famille, s'accomplit la jonction entre la culture et la loi. Quel est le propre, précisément ? Justement, quel est le propre de la transmission familiale ? C'est qu'elle est d'abord transmission d'un nom. C'est magnifique, d'ailleurs, de se dire ça. C'est magnifique et, d'une certaine façon, c'est justement ça qui est insupportable à la culture contemporaine. Regardez, d'ailleurs, tout ça a commencé depuis longtemps par des attaques sur, justement, la transmission du nom de famille et le caractère automatique de la transmission du nom de famille. Et, justement, la figure familiale, la figure parentale, c'est la figure de la transmission du nom, et la transmission du nom, c'est aussi la transmission de la norme, la transmission de la loi, qui est en même temps transmission de la parole. Et le nom, c'est très étonnant, c'est très mystérieux, c'est très beau. Ce nom qui nous a été donné, c'est celui à l'intérieur duquel naît la conscience que nous avons de nous-mêmes. Je me représente à moi-même sous ce nom, contingent, arbitraire d'une certaine façon. Je n'ai pas choisi mon nom, sous ce nom qui m'est transmis. Et c'est dans ce nom que s'inscrit la conscience que j'ai de ma propre singularité, de ma propre individualité, et donc de ma propre liberté. Et là, il y a vraiment un mystère extraordinaire, je trouve, quelque chose d'absolument magnifique dans cet acte parental de la transmission du nom. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne doit rien y avoir de plus beau dans l'existence que de donner un nom à un enfant, rien de plus difficile aussi, mais rien de plus beau, justement en se disant que c'est dans ce nom que s'inscrira l'aventure d'une liberté nouvelle. Mon dernier point, c'est que, justement, réfléchir sur cette articulation triple entre culture, loi et liberté doit nous inciter à une vigilance redoublée. Lorsqu'on veut s'attaquer à la liberté, contrairement à ce que l'on pourrait penser, on s'attaque toujours d'abord à la loi et toujours d'abord à la famille. Au fond, s'attaquer à la loi, s'attaquer à la loi comme règle commune, c'est-à-dire comme règle orientée vers le service du bien commun et vers le service du bien le plus faible, ça n'est pas produire une liberté nouvelle. C'est produire une norme plus dure encore, une véritable norme qui, pour le coup, aliène la liberté. S'attaquer à la loi, c'est produire de l'aliénation. S'attaquer à la loi, c'est laisser précisément le plus fort dominer sur le plus faible. Et ça, pour le coup, ça s'appelle la domination. Ça s'appelle l'aliénation. La loi commune sert la liberté de tous. Et dénoncer la loi commune pour faire prévaloir les intérêts du plus fort, c'est toujours, en réalité, supprimer la véritable liberté. Là encore, l'exemple du genre est tout à fait éclairant, je trouve. Le genre se présente comme une libération, en particulier comme une libération pour les femmes. On dit, et les stéréotypes de genre vont aliéner les femmes. Et donc les femmes, au fond, sont prisonnières de ces stéréotypes et elles sont enfermées dans une étiquette qui les empêche d'être véritablement libres. Et notamment, la maternité les enferme, parce que la maternité, c'est ce qui pèse sur elles comme leur charge propre. Les femmes ne seront jamais libres tant qu'on n'aura pas affirmé qu'elles étaient parfaitement indifférentes à l'enfant, ou en tous les cas aussi indifférentes à l'enfant que le père, ou en tous les cas dans une relation avec l'enfant qui soit, avec celle du père, indifférente. En réalité, le genre qui prétend libérer les femmes construit une nouvelle norme. Il y a pas très longtemps, je voyais Najat Vallaud-Belkacem sur un plateau de télévision, et elle disait la chose suivante, elle disait « Oui, vous savez, nous on se bat pour que les femmes quand même puissent plus avoir accès au marché du travail, vous avez entendu parler peut-être aujourd'hui de sa nouvelle invention, la réforme du quotient conjugal, hein, qui justement est l'expression d'une norme extraordinaire, c'est-à-dire « Vous n'avez plus le choix, mesdames, il faut travailler maintenant, hein. Sinon vous êtes dans une très mauvaise posture. » Et donc Najat Vallaud-Belkacem disait la question des places en crèche. On multiplie les places en crèche, mais c'est quand même très curieux. Je reçois des lettres au ministère des femmes, d'un certain nombre de femmes qui me disent « Bon, c'est très bien que vous fassiez des places en crèche, mais si vous pouvez aussi nous aider par pitié à faire en sorte que nous puissions, à un moment dans notre vie, consacrer vraiment du temps à nos enfants d'une façon qui soit singulière, qui ne soit pas exactement la même façon que notre mari. Nous voudrions n'avoir pas exactement le même rapport à notre famille, n'avoir pas exactement le même rapport à la vie professionnelle que notre mari. Et si vous pouviez aussi nous donner la possibilité de réaliser cette option. » Ça ne la remettait pas du tout en question, la Najat Vallaud-Belkacem. Ça l'étonnait beaucoup, mais elle réalisait en disant « Quand même, vous voyez le poids des stéréotypes. Il va falloir développer l'éducation, parce que quand même, ces femmes sont vraiment prisonnières de l'aliénation des stéréotypes de genre. » En fait, c'est terrifiant, parce qu'au fond, et c'est terrifiant pour vous, mesdames en particulier, parce que tant que vous n'aurez pas fait l'effort de correspondre aux stéréotypes masculins dans ce qu'il a de plus caricatural, on ne vous reconnaîtra pas comme des êtres libres. C'est-à-dire que j'avais répondu à une tribune dans Le Monde il y a maintenant peut-être 2 ans, en août 2011, Caroline de Haas, qui était la présidente d'Oser le Féminisme, qui est devenue ensuite conseillère de Najat Vallaud-Belkacem, qui maintenant a créé un cabinet de conseil pour aider les élus à mener des pratiques d'égalité de genre dans leur collectivité. Najat Vallaud-Belkacem avait écrit un texte qui s'appelait « Il faut devenir indifférent aux différences ». Et elle disait, voilà, tant que les femmes n'auront pas exactement le même rapport au travail que les hommes, tant qu'elles n'auront pas exactement le même type de responsabilité dans les entreprises, le même type de salaire, etc., elles seront toujours considérées comme aliénées. Elles seront toujours aliénées. Et j'avais envoyé un texte au Monde qui, au miracle, l'avait publié, qui s'appelait « Femmes ne devenez pas des hommes comme les autres », où j'expliquais que, en fait, la victoire du genre, c'était finalement la victoire paradoxale du machisme le plus absolu. C'est-à-dire que pour que vous soyez respecté, il faut que vous ressembliez à ce qu'il y a, mais alors vraiment, de plus caricatural dans le stéréotype masculin. Il faut que vous vouliez travailler en entreprise, gagner beaucoup d'argent, avoir des responsabilités, écraser tout le monde. Bref, il faut que vous montriez que vous en avez, quoi. Voilà. Que vous êtes des vrais mecs. Voilà. Et à ce moment-là, on dira que vous êtes enfin libre et on vous respectera vraiment. La véritable norme, la véritable aliénation de la liberté, elle est dans cette déconstruction de la culture. Elle est exactement là. La vraie norme, celle qui enferme la liberté, c'est celle qui n'est pas dite. Mais la loi, au moins, elle est publiée. La norme, elle est intégrée d'une façon beaucoup plus vicieuse et beaucoup plus douloureuse. Parce que la norme sociale, c'est celle qui fait que quand vous êtes mère au foyer, on vous regarde bizarrement en disant que vous êtes sans profession. La norme sociale, c'est celle qui fait que quand vous avez un peu arrêté de travailler pour élever vos enfants, on dit que c'est quand même trop dommage parce que vous avez gâché votre carrière. C'est ça la norme, vous voyez. C'est ça qui emprisonne la liberté. Parce qu'au fond, là, pour le coup, il y a vraiment une obligation sociale, une discipline sociale qui est d'autant plus sournoise qu'elle ne se présente pas comme ça. Elle se présente comme une libération. Et c'est ça qui est, je crois, vraiment très dangereux. S'attaquer à la culture, s'attaquer à ce que la culture nous transmet de la place de l'homme et de la femme, eh bien c'est d'une certaine façon, je parle vraiment, s'attaquer à la liberté et s'attaquer à la loi de la même façon. Et enfin, s'attaquer à la famille, c'est toujours s'attaquer à la liberté. La famille, justement, c'est le lieu où naît une liberté. Et ça, malheureusement, les politiques qui veulent aliéner la liberté des hommes le savent trop bien. Quand on veut gouverner les hommes, quand on veut dépasser les limites d'un pouvoir démocratique respectueux des libertés individuelles, on commence toujours par s'attaquer à la culture, on brûle les livres, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des collègues élus en Ile-de-France qui font l'inventaire de leur bibliothèque municipale et qui retirent des rayonnages des bibliothèques tous les livres qui sont considérés comme trop dangereusement sexués. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une héroïne qui a le malheur de porter une jupe, on retire le livre parce que c'est très dangereux. Et ça, vous voyez, ça consiste à s'attaquer à la culture. Exactement, là, pour le coup, comme d'autres régimes totalitaires ont voulu commencer par s'attaquer aux livres. On commence toujours par s'attaquer à la culture et toujours par s'attaquer à la famille. L'État qui excède son propre pouvoir, l'État qui refuse de reconnaître un espace privé dans lequel naît une liberté, cherche toujours à commencer par se substituer aux parents dans le rôle d'éducateur, parce que précisément la famille est ce lieu où une liberté nouvelle s'éduque. Je crois que la dernière solution qui nous reste, c'est d'entreprendre un témoignage authentique qui ne sera pas d'abord un combat politique, mais qui sera d'abord un témoignage culturel, c'est-à-dire de permettre à nos contemporains de porter un regard nouveau sur ces réalités dont nous avons parlé ce soir, et de permettre à nos contemporains de regarder à nouveau la famille, non pas comme le lieu d'une transmission aliénante, de ne plus crier avec la philosophie moderne que nous haïssons la famille, dans ce grand cri de désespoir, famille, je vous hais, mais au contraire de reconnaître que dans la famille, avec sa fécondité, avec ses pauvretés aussi, avec ses épreuves, parce que la vie familiale c'est toujours une vie d'épreuve, c'est toujours une vie de souffrance, mais aussi c'est une vie dont la fécondité, dans sa pauvreté et sa simplicité, a quelque chose de proprement miraculeux. Et d'apprendre à nos contemporains à regarder la loi, non pas comme l'expression cynique de la puissance du plus fort sur le plus faible, mais au contraire comme ceux qui nous relient pour chercher ensemble une véritable justice. Merci beaucoup.
On a l'impression quand même qu'il y a une accélération.